Il y a un exercice mental assez troublant à faire, je trouve.
Ah oui, hein? Lequel?
Bah, il suffit d'imaginer que notre œil gauche, par exemple, bah, c'est pas juste une simple sphère biologique remplie d'humeurs vitrées, tu vois, que c'est littéralement le soleil en personne.
Ouais, le soleil, rien que ça.
C'est ça. Et que l'œil droit, bah, c'est la lune. Que le sommet de notre crâne, en fait, abrite les sommets enneigés de la montagne mythique Kunlun. Et qu'en avalant simplement notre propre salive, juste après avoir fait claquer nos dents, bon, on est en train de distiller un élixir d'immortalité. C'est un changement de paradigme radical, non? Par rapport à notre radiographie clinique hyper froide et binaire à laquelle la médecine moderne nous a tellement habitués.
Ah, mais c'est un vertige monumental, ouais. On a tellement intégré cette vision cartésienne du corps comme une espèce de machinerie complexe, quoi.
Avec des pompes et des tuyaux, ouais.
Exactement, des câbles, des filtres, tout ça. Donc appréhender une cartographie où la chair en fait devient un espace céleste, ben ça demande une véritable gymnastique intellectuelle pour nous aujourd'hui.
C'est clair.
Le corps n'est plus du tout un objet qu'on répare, c'est carrément un cosmos qu'on explore et qu'on doit gouverner.
Eh bien, c'est toute la mission de notre exploration documentaire d'aujourd'hui. On plonge vraiment dans les méandres d'un texte antique, un texte qui est fondateur et absolument fascinant de la tradition taoïste. C'est le Huangting Jing, qu'on traduit généralement par le classique de la cour jaune.
Tout à fait.
Et pour nous guider là-dedans, on s'appuie sur l'imposant travail de traduction et aussi d'exégèse qui a été réalisé par Romain Gourmand. L'objectif pour nous, c'est de comprendre comment les anciens taoïstes concevaient cette fameuse géographie sacrée, avec, bah, ces palais flamboyants, ces constellations internes, et le plus étrange peut-être, les divinités qui peuplent nos organes. Bon, décortiquons un peu tout ça.
Allez, on s'y met.
Par où on commence, en fait, pour s'orienter dans un territoire qui est aussi déroutant? Parce que rien que le titre, ça pose question. La cour jaune, c'est censé se trouver où, géographiquement parlant, dans notre anatomie?
Ouais. Alors la première erreur, ce serait justement de chercher avec un scalpel, tu vois.
D'accord, donc pas de dissection.
Voilà, c'est ça. Les commentateurs anciens, ils nous préviennent très vite, en fait. La cour jaune, le fameux Huangting, c'est pas un organe qu'on peut disséquer. Pour vraiment comprendre, il faut convoquer le système des cinq phases, le Wuxing.
Ah, les éléments de la cosmologie chinoise.
Ouais, exactement. Dans cette cosmologie, le jaune, c'est la couleur de l'élément terre. Et la terre, bah, elle ne se situe pas à la périphérie, elle est au centre.
Ok, le centre absolu.
C'est ça, c'est le pivot en fait. C'est autour de la terre que le feu, l'eau, le bois et le métal s'articulent.
Et le Ting, donc la cour, ça désigne cet espace central majestueux d'un palais.
D'accord, je vois. Donc, si on associe très souvent cette cour jaune à la rate dans les textes médicaux, c'est juste parce que la rate correspond à la Terre dans ce système des cinq phases. C'est pas un point précis avec des coordonnées sur une carte, quoi. Balaraït, c'est un ancrage symbolique, ouais. Mais la cour jaune, c'est avant tout un principe de centralité. C'est, on pourrait dire, un espace de vacuité, un carrefour intérieur où l'ordre humain va s'aligner sur l'ordre cosmique.
D'accord.
Et selon les différentes strates du texte, parce qu'il a évolué, cette cour peut se situer au centre de la tête, ou bien dans la région du cœur, ou même dans l'abdomen. L'important, c'est que ce soit l'axe central qui maintient l'équilibre du royaume corporel. Et ce mot de royaume, d'ailleurs, il n'est vraiment pas galvaudé, hein. Le texte parle continuellement de Jing.
Ah oui, Jing, c'est le mot qui est souvent traduit, un peu hâtivement d'ailleurs, par paysage, non?
Ouais, c'est ça.
Et Romain Gourmand insiste vachement là-dessus dans son travail. Si on traduit Jing par paysage, bah on s'imagine en train de regarder une jolie peinture de montagne, tu vois, un truc extérieur. Or, lui, il traduit ça par manifestation. Pourquoi cette nuance, elle est si cruciale, en fait?
Bah, parce que le terme se rapproche beaucoup d'un autre concept philosophique, le xiang. Et le xiang, ça désigne une forme, une image ou l'émanation visible d'une réalité qui, elle, est invisible.
Ok.
En gros, le Wangting Jing, il ne décrit pas un décor inerte, figé. Les manifestations, elles sont actives. Elles émergent, elles se révèlent à la conscience uniquement au moment où le pratiquant tourne son regard vers l'intérieur.
Wow, ok.
Sans cette contemplation, le paysage, il n'existe tout simplement pas.
C'est fou ça. Pour utiliser une analogie un peu moderne pour notre public, c'est un peu comme si lire une simple planche d'anatomie, bah ça se transformait soudainement en l'exploration d'une carte de jeu vidéo, tu sais. de la réalité virtuelle en monde ouvert.
Ah ouais, c'est une super image.
Tant que le joueur y dirige pas son regard vers une zone précise, bah la zone n'est pas calculée, elle n'est pas rendue par le moteur graphique.
Exactement.
Mais dès qu'on y prête attention, bam, la géographie fabuleuse s'illumine, quoi. La tête devient cette fameuse montagne Kunlun, l'axe du monde. Le cerveau révèle ses 9 chambres secrètes, dont le palais de la boulette debout, le Niwan, j'adore ce nom.
Ouais, c'est très visuel.
Et le cœur, bah, c'est plus un muscle qui bat, c'est le palais écarlate. Et comme je le disais au tout début, l'œil gauche devient le principe Yang, donc le soleil, et le droit, le principe Yin, la lune.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette cartographie, elle abolit totalement la frontière que les modernes, en fait, on trace entre l'astronomie, la médecine et la théologie.
Ouais, tout est mélangé.
C'est ça. L'idée fondatrice de tout ça, c'est la non-dualité absolue entre le macrocosme, l'univers, et le microcosme, notre corps. Si le ciel, il est structuré par des astres et la terre par des montagnes, bah, le corps humain y possède obligatoirement ses propres luminaires et ses propres sommets. C'est pas juste une métaphore poétique pour embellir un traité de santé, tu vois?
Attends, j'ai besoin qu'on s'arrête là-dessus une seconde, parce que j'ai vraiment du mal à saisir la littéralité du truc.
Vas-y.
Est-ce qu'on est vraiment en train de dire que les taoïstes de l'Antiquité, ils croyaient physiquement, je dis bien physiquement, qu'il y avait des montagnes de jade et des soleils incandescents sous leur peau?
Mm-hmm.
Je veux dire, est-ce que c'était pas juste le produit d'états de transe profonde, des hallucinations induites par des heures et des heures de méditation dans des grottes obscures?
Bah, la question de la littéralité, en fait, c'est vraiment le grand piège de notre esprit occidental moderne.
Ah ouais?
Ouais, pour nous, c'est binaire. Soit c'est un amas de cellules sous un microscope, soit c'est une hallucination complète. Mais pour le pratiquant du Wang Xingjing, la réalité spirituelle, elle est tout aussi concrète, voire même plus que la matière charnelle.
Ah, d'accord.
Les manifestations lumineuses qu'ils percevaient pendant leur retraite, c'était vraiment considéré comme la trame véritable du cosmos. Se connaître intérieurement, pour eux, c'était pas du tout faire de la petite introspection psychologique.
C'était pas une séance de psy, quoi.
Pas du tout. C'était littéralement explorer l'univers de l'intérieur, arpenter sa propre voûte céleste.
Ok, ok. Donc l'architecture, elle est cosmique. On a un royaume grandiose, avec ses fameuses cours jaunes, des palais écarlates, des champs de cinabre. Mais un royaume majestueux qui est totalement vide d'habitants, bah, ça reste une ruine.
C'est clair.
Et le texte, évidemment, il ne s'arrête pas à la topographie. Il introduit une population entière. Les organes, ils abritent des esprits, des chaînes.
Tout à fait.
Et ce qui me frappe vraiment dans les sources qu'on explore pour préparer ça, c'est le niveau quasi maniaque du détail.
Ah oui, c'est extrêmement précis.
Ouais, on nous dit pas juste « ouais, il y a une énergie dans le cœur, circuler, il n'y a rien à voir ». On nous décrit un souverain avec une robe vermillon. Ailleurs, on va croiser un nouveau-né intérieur qui coiffait un turban d'or massif. Pourquoi ce besoin d'un tel vestiaire divin? Pourquoi décrire la coupe de cheveux ou les vêtements des dieux de notre propre foi, notre rate?
En fait, l'explication, elle se trouve dans la fonction même de ces descriptions. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des ornements littéraires. Ce sont de véritables manuels de survie, à la fois spirituels et physiques.
De survie? Comment ça?
Bah, chaque couleur, chaque vêtement obéit à la loi des 5 phases dont on parlait. Par exemple, le cœur, il est lié au sud, au feu, à l'été. Donc, son esprit, il porte très logiquement le vermillon, le rouge.
Ah oui, la cohérence du système.
Voilà. Mais au-delà de ces symboliques, tous ces détails hyper précis, c'est le moteur d'une pratique redoutable qu'on appelle le kunsi.
Le kunsi, c'est l'art de maintenir en présence, c'est ça?
Précisément, ouais. Kun, ça signifiait conserver ou préserver. Et si, ça désigne la pensée et la contemplation. La logique taoïste, elle part d'un constat qui est un peu terrifiant, en fait. Le corps humain est super poreux et notre attention, elle est extrêmement volatile.
Ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Hein.
Plus que jamais. Et ces esprits, ces chaînes qui animent nos organes, ils sont de nature très subtile. Donc, ils ont naturellement tendance à vouloir remonter vers les cieux, à s'échapper du corps.
D'accord.
Et si l'être humain ne les retient pas fermement, par la force de sa contemplation, tu vois, en visualisant très précisément leur robe vermillon ou leur fameux turban d'or, bah, ces esprits, ils quittent le corps.
Une sorte d'exode divin intérieur, quoi. Les dieux se font la malle.
Exactement. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on peut voir ça comme un royaume dont le monarque serait super inattentif.
Mmh.
Si l'on roi, il néglige ses ministres, s'il connaît même pas leur nom ni leur visage, et s'il laisse les frontières grandes ouvertes sans surveillance, bah qu'est-ce qui se passe? Les ministres partent et le royaume s'effondre.
Ah, je vois.
Perdre le contact visuel interne avec ses propres dieux, pour eux, c'est laisser sa vitalité, son essence et son souffle se disperser dans le vide. La mort, en fait, pour ces taoïstes, c'est rien d'autre que la désertion totale de ses esprits. Quand il n'y a plus personne, tu meurs.
Waouh, c'est dingue, parce que aujourd'hui, quand on regarde les instructions de méditation un peu à la mode, tu sais, la pleine conscience, les techniques de body scan, on nous demande de nous concentrer sur des phénomènes super arides.
Ouais, observe ta respiration, tout ça.
Voilà. Sentir l'air frais qui passe dans les narines ou visualiser la chaleur dans son gros orteil. Et notre esprit moderne, bah, il décroche en 10 secondes pour penser à la liste de courses ou au loyer.
C'est ça, c'est très dur de rester focus.
Mais là, visualiser un dieu flamboyant, majestueux, qui est assis sur un trône de jade en plein milieu de son propre cœur, bah, c'est une technologie de l'attention qui est d'une puissance inouïe.
Mais complètement.
L'esprit, il a une encre visuelle narrative qui est tellement forte, tellement riche, que c'est presque impossible de vagabonder.
L'analogie, elle est super pertinente, ouais. C'est une technologie d'ancrage, mais avec un enjeu immédiat de longévité. Le Wang Ting Jing, il martèle vraiment cette idée d'empêcher la dispersion à tout prix.
Garder les portes fermées.
Voilà. Il s'agit de préserver ce qu'ils appellent les trois trésors.
Qui sont...
Alors, t'as le Jing, c'est l'essence vitale, tout ce qui est fluide. Ensuite, le Qi, le fameux souffle ou l'énergie dynamique. Et enfin, le Shen, l'esprit ou la conscience. Et pour verrouiller ce royaume, pour retenir tout ce beau monde à l'intérieur du corps, le pratiquant y fait pas que visualiser. Il doit barricader physiquement son palais.
On en arrive donc aux fameux sept portes. Les points faibles de la forteresse humaine.
C'est ça. Les sept portes, ce sont tout simplement les sept orifices du visage.
Donc les yeux, le nez...
Les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche. C'est évidemment des fenêtres sur le monde extérieur, c'est indispensable pour interagir, on est d'accord.
Ouais, pratique pour vivre.
Mais d'un point de vue taoïste, ce sont surtout des brèches béantes, des trous par lesquels notre énergie vitale et nos esprits, ils fuient en permanence, parce qu'ils sont aspirés par les distractions sensorielles de l'environnement extérieur.
D'accord.
Le texte, il exige vraiment de sceller ces portes, métaphoriquement. Il faut retourner l'essence vers l'intérieur. La lumière des yeux, par exemple, elle ne doit plus regarder le monde profane à l'extérieur. Elle doit se retourner pour éclairer les palais internes.
C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que pour sceller ce corps et pour nourrir ces dieux intérieurs, le texte il s'attarde sur des pratiques d'une dimension charnelle, voire vraiment organique, qui est assez étonnante.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
On s'attend à de la très haute métaphysique, un truc très éthéré, et bam, on tombe sur des instructions super concrètes qui impliquent la salive, et le claquement de dents.
C'est très ancré dans le corps, oui.
Dans les sources, ça parle de l'eau claire de l'étang de jade ou de l'étang fleuri. Bon, l'étang, c'est notre bouche, on a compris. Et cette eau, elle vient irriguer la racine spirituelle qui est la langue.
C'est joliment dit.
C'est poétique, ouais. Mais comment un fluide aussi, aussi banal que la salive, ça peut devenir le carburant de l'immortalité ? C'est quoi la mécanique cachée derrière ça ?
Bah, y a une mécanique en fait, qui est très précise, très physiologique. Elle a été explicitée plus tard par des commentateurs comme Liang Chuzi. C'est un érudit de la dynastie Tang.
Ok.
Et il nous dit bien qu'il ne s'agit pas du tout de saliver passivement devant un bourre-pain. Hein. La pratique, elle commence très souvent par un truc précis. Faire claquer ses dents 36 fois.
36 fois. Pourquoi 36 ? Il y a une raison genre vibratoire à ça ?
Oui, tout à fait. Le claquement des dents, c'est perçu comme un tambour céleste.
Ah ouais ?
La résonance osseuse que ça crée dans la boîte crânienne, elle sert carrément à réveiller et à convoquer les esprits pour qu'ils soient bien attentifs à ce qui va se passer.
C'est la cloche qui sonne le rassemblement, quoi.
C'est ça. Et une fois que l'audience divine est réunie, là, le pratiquant génère un fluide. Et dans ce contexte de concentration extrême, la salive, elle est plus du tout considérée comme un suc digestif vulgaire.
C'est plus de la bave.
Non, elle est perçue comme la condensation des vapeurs pures du corps. C'est la rencontre entre l'eau des reins et le feu du cœur. Elle devient vraiment ce qu'il nomme la liqueur de jade. Le pratiquant, il va la faire tourner dans sa bouche, il baigne la langue avec, puis il l'avale, mais avec une intention qui est extrêmement focalisée.
Ah, on l'avale pas juste par simple réflexe œsophagien, comme quand on déglutit normalement, on la guide littéralement.
Mais oui, il la fait descendre consciemment. Il l'accompagne par la pensée jusqu'au champ de cinabre inférieur.
Le ventre, quoi.
Voilà, au niveau de l'abdomen, pour aller nourrir l'essence corporelle, le jing. En fait, c'est un circuit fermé hyper ingénieux. L'énergie, elle monte, elle se condense en ce fluide très pur, et ensuite elle est renvoyée aux fondations pour recharger les batteries du royaume. C'est vraiment le principe de l'autosuffisance absolue.
Donc l'immortalité, le fameux Shang-Sheng, ça s'achète pas.
Non, c'est gratuit.
Pas besoin de partir en expédition chercher une herbe magique sur des îles mythiques à l'autre bout du monde. Le laboratoire alchimique, il est déjà construit, il est là, sous notre peau.
Tout le matériel est fourni.
C'est ça. Et le pratiquant distille son propre élixir à partir de ses fluides. C'est génial. Mais si cette pratique originelle, elle est si viscérale, si organique, comment ça se fait que les textes taoïstes, disons modernes ou plus tardifs, ils en parlent très souvent avec un vocabulaire d'une abstraction déconcertante? Que s'est-il passé entre-temps dans la longue histoire de ce texte?
Ah bah ça c'est crucial de le comprendre. Le Huang Tingjing, c'est pas un bloc monolithique qui serait resté figé dans le marbre pendant des siècles. C'est un vrai millefeuille textuel qui a beaucoup muté au fil du temps.
D'accord.
À l'origine, tout au début, on a la section qui s'appelle le Wai Jing, c'est-à-dire les manifestations extérieures. Ça, c'est un texte très ancien, qui est composé en vers stricts de 7 caractères.
Ah, pour la récitation rythmique.
Exactement. C'était conçu pour le rythme, pour la récitation quasi incantatoire, et c'est très dense, très cryptique.
Et ensuite, il y a une nouvelle tradition qui arrive, c'est ça, le courant Shangqing, qui rajoute une couche.
Voilà, le courant Shangting, il se développe plus tardivement. Et c'est lui qui produit le Neijing, les manifestations intérieures. Et là, on assiste à une véritable explosion baroque de l'iconographie du corps.
C'est là qu'on trouve les détails sur les vêtements.
Oui, c'est de là que viennent les descriptions complètement maniaques des tuniques, des coiffes et aussi des noms secrets des divinités. À cette époque-là, sous les Tang notamment, avec le commentateur Liang Chuzi dont on parlait pour les dents. Bah, la lecture, elle est encore très ancrée dans la chair. C'est de l'anatomie, c'est de la visualisation directe, on parle de fluide corporel bien réel.
Mais le basculement majeur, la grande rupture, elle se produit des siècles plus tard, c'est ça. Quand la dynastie Qing arrive au pouvoir et que le prisme de lecture change complètement. Romain Gourmand, d'ailleurs, il montre très bien comment le commentateur de l'époque, Liu Yiming, il s'empare de ce texte pour le transformer.
Le changement de paradigme sous les Qing, il est radical. Ce commentateur, Liu Yiming, il va lire tout le Wang Tingjing à travers la lorgnette du Neidan.
L'alchimie interne.
C'est ça, une alchimie interne qui, à cette époque, a été lourdement influencée par la philosophie bouddhiste et par le néo-confessionnisme. Donc pour lui, il n'y a plus du tout de petits dieux en robe vermillon qui sont assis physiquement sur la rate ou sur le foie. Fini tout ça.
Tout devient spirituel, allégorique.
Tout devient allégorique. Le soleil et la lune intérieure y perdent complètement leur dimension astrale et tangible, ça devient juste des métaphores, des principes yang et yin de l'esprit. L'étang de jade, la salive, bah ça se transforme en simple représentation de processus psychologiques.
Ah ouais, d'accord.
Des processus hyper abstraits qui visent l'éveil spirituel ou l'atteinte du vide bouddhique.
Je vois. Et Romain Gourmand, le traducteur, il prévient le lecteur avec beaucoup d'insistance sur ce point-là.
Ouais, c'est un avertissement important.
Il dit qu'il faut vraiment pas projeter de l'alchimie intériorisée et abstraite de l'époque Qing sur les pratiques très concrètes corporelles de l'époque Tang. C'est un anachronisme total, en fait.
C'est faire un contresens sur l'histoire de la pratique.
Et ça m'amène à m'interroger, tu vois. Bon, ces textes anciens s'adaptent à leurs époques, c'est naturel. L'histoire avance. Mais est-ce qu'on ne perd pas quelque chose de fondamental en psychologisant à outrance toutes ces pratiques physiques? L'injonction de Liu Yiming, là, de voir tout ça juste comme de grandes métaphores spirituelles, est-ce que ça stérilise pas un peu la puissance viscérale de la version brute, celle où l'on avalait vraiment sa salive en sentant qu'on nourrissait un dieu vivant en nous?
Cela soulève une question essentielle sur notre rapport à la tradition. Parce que le vrai génie du Huang Tingjing originaire, c'est justement son refus viscéral de séparer le corps de l'esprit. La matière corporelle, elle y est profondément sacralisée.
C'est sûr.
En rendant tout métaphorique plus tard, le Neidan, il a sophistiqué la pensée taoïste, c'est indéniable. Mais il a aussi peut-être contribué à une forme de désincarnation.
Ouais, on s'est un peu coupé de la sensation physique.
Exactement. Cela dit, on ne peut pas ignorer que c'est ce texte fondamental, le Wang Tingjing, qui a fourni tout le vocabulaire universel à la suite. Que l'on parle de courgeonne, de champ de cinabre ou de porte de la destinée. L'alchimie interne, même très abstraite, elle utilise les briques qui ont été posées par ce classique.
C'est de socle, en fait.
Voilà. Mais revenir à la source brute, comme le propose cette nouvelle traduction de Gourmand, bah c'est dépoussiérer les concepts pour retrouver la sensation du rituel charnel.
C'est redescendre du nuage philosophique pour retourner direct dans la caverne humide du corps, en somme.
C'est une belle image. Et c'est surtout mesurer à quel point, pour ces anciens pratiquants, la physiologie pure était totalement indissociable d'une forme de grâce.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, Evelyne? Pourquoi, nous, aujourd'hui, on s'imposerait la rigueur de lire un traité qui est vieux de plusieurs millénaires, avec des dieux qui portent des turbans d'or planqués dans nos organes? La réponse, je crois qu'elle dépasse très largement le simple intérêt académique ou historique.
Ah ça, c'est certain.
On vit vraiment une époque d'une schizophrénie corporelle totale. Le corps, dans notre société, bah, il est perçu soit comme un fardeau esthétique, qu'il faut aller sculpter à la salle de sport,
Ouais, la performance à tout prix.
soit comme une vulgaire machine biologique qu'on bourre de compléments alimentaires pour qu'elle tourne, soit, pire encore, comme un support encombrant qu'on préfère anesthésier, tu sais, pour pouvoir vivre uniquement dans nos cerveaux, totalement absorbés par les flux d'informations digitaux.
On devient des têtes sans corps devant nos écrans.
Exactement. Et le classique de la cour jaune, bah, il impose un recadrage fulgurant là-dessus. Il nous intime que notre chair, c'est pas de la mécanique froide. C'est un écosystème d'une ampleur cosmique, un territoire sacré qui exige de la révérence, du silence et surtout une écoute intime de tous les instants.
C'est vraiment un plaidoyer éclatant pour le retour à soi, hein. Plutôt que chercher désespérément des connexions ou du sens dans des espaces virtuels extérieurs, ce texte il nous rappelle qu'on porte déjà en nous un univers d'une complexité insondable. Apprendre à habiter son propre corps, vraiment, sans aucune dualité, c'est probablement la leçon la plus subversive même qu'on puisse tirer de l'antiquité taoïste aujourd'hui.
Ce qui amène, pour terminer, à une réflexion que je trouve assez troublante. La pierre angulaire du Kongxi, cette pratique de contemplation ancienne, c'est le pouvoir absolu de l'attention.
L'attention, ouais, le mot-clé.
C'est le regard qui est dirigé vers l'intérieur, qui maintient les dieux en vie, qui empêche l'essence de fuir, qui garde la forteresse debout. L'attention, pour eux, elle donne littéralement vie.
C'est vital.
Et aujourd'hui, bah, l'économie mondiale entière, elle est construite sur l'extraction de cette attention vers l'extérieur. Les écrans, les notifications, l'urgence permanente. Tout ça agit comme des gigantesques aimants qui siphonnent notre regard hors de nous-mêmes, laissant bah, nos sept portes grandes ouvertes au vent contraire.
L'énergie qui se vide en continu.
Si l'attention est le ciment de notre architecture intérieure, que reste-t-il pour celui qui écoute de ces magnifiques palais écarlates et de ces cours jaunes? Sont-ils devenus des royaumes fantômes, effondrés, désertés par leurs habitants spirituels? Tout ça parce qu'on a juste cessé d'aller les visiter?
C'est vertigineux de se dire ça.
C'est une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'un silence se présente, je pense. Peut-être qu'il est grand temps de fermer les yeux et de ramener enfin notre regard à la maison avant que les dernières fondations de la cour ne s'écroulent définitivement.